PMERadio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et Inextinso.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et puis comme vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, anciennement Twitter, PME Radio-du-bas TV. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP, chez qui nous enregistrons. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Alors aujourd'hui, nous recevons Yves-Charles Boccassini, directeur de H2O Parapluie. Bonjour Yves-Charles.
Bonjour.
Alors Yves-Charles, vous êtes originaire de Normandie, vous avez un CAP BEP traiteur poissonnerie, mais aussi un bac pro commerce, petit commerce comme grande distribution. Alors votre parcours est assez atypique, hein. Vous êtes passé des étals d'une poissonnerie parisienne à la gestion de l'entreprise H2O Parapluie. Je crois que vous avez une anecdote à ce sujet, je crois.
Oui, donc sur la poissonnerie.
Oui.
Donc un jour j'étais en apprentissage en poissonnerie et on parle souvent de tour de main et on m'avait demandé de découper des thons et en fait j'avais du sang partout sur mon tablier et là j'ai mon patron qui me regarde et puis il me dit pousse-toi, je vais te montrer et je m'en souviendrai toujours parce qu'il avait des Timberland jaunes, une vareuse jaune et un jean. Et en fait, il me dit, tu travailles comme un cochon. Donc, il a pris un couteau et puis il a commencé à parer le poisson, à le vider sans se mettre une goutte de sang. Il m'a dit, c'est comme ça que je veux que tu travailles. Et là, en fait, ça a été génial parce que on parle d'apprentissage. Et là, ce jour-là, j'ai appris une leçon déjà. Et puis, j'ai vu la valeur de mon patron.
Alors, je saute quelques années plus tard, on est en 2018, et vous achetez l'entreprise H2O Parapluie, qui était à l'époque un atelier. Alors, pourquoi se lancer dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous a séduit, en fait, dès le départ?
Donc c'était une reconversion professionnelle. J'avais géré pendant 11 ans une entreprise sur le mine de Rungis, donc emballage alimentaire, où j'avais été président d'une entreprise. Et donc c'était une reconversion. J'avais envie de me rapprocher un peu de mes racines normandes. Mais ce qui m'importait, donc j'ai toujours cru en la France et toujours, même dans cette entreprise-là, sur Rungis, à peu près 80% de mes fabricants étaient français. Ça a toujours été important pour moi. Et en fait, dans ma reconversion, le premier truc qui était important pour moi, c'était d'avoir préserver un savoir-faire. Mmh. Je suis scandalisé quand j'écoute des radios professionnelles et on me dit, tel savoir-faire part dans tel pays. Et moi, ça me fait mal aux tripes parce que c'est de la destruction d'emplois, c'est de la destruction de savoir-faire. Et moi, je me suis dit, ça peut être quelque chose. Et en fait, dans ma feuille de cadrage, j'avais pas d'entreprise. Donc j'étais ouvert à tout et ça c'était assez intéressant. Donc j'ai vu beaucoup d'entreprises, j'ai dû voir une quinzaine d'entreprises en à peu près 10 ou 11 mois et puis je suis tombé là-dessus et c'était celle que je voulais pas racheter, elle était trop petite pour moi, je voulais quelque chose de plus gros. Et en fait, en la visitant, je suis tombé amoureux des modèles. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire.
Alors, H2O Parapluie, justement, dans le détail, c'est une société qui fabrique et commercialise le parapluie original et artisanal made in Normandie, vous l'avez dit, dont l'atelier boutique de fabrication de parapluies situé dans le Calvados. Je crois que c'est une histoire de famille quand même, H2O Parapluie, Martine et Claude Collard, les fondateurs. Comment ça s'est passé, en fait? Parce que, quand c'est une histoire de famille, on arrive derrière, comment ça se passe pour vous à ce moment-là?
J'avais fait une formation qui est le CRA, donc qui est à Asnières. Et donc, pendant 5 semaines, j'ai appris comment racheter une entreprise. Et en fait, quand je suis arrivé dans l'atelier de Claude et Martine, je me suis aperçu tout de suite qu'il fallait pas que je mette en place ce que j'avais appris. Et donc, en fait, si je commençais à arriver avec l'avocat, tout ça, l'avocat, commissaire au compte et tout, ça allait faire peur. Donc, en fait, je l'ai joué naturel et puis humain, tout simplement. J'ai écouté, ils m'ont aussi écouté et ça s'est fait naturellement. Et ça a été une belle histoire parce qu'on avait négocié 6 mois de tuilage. Et dans l'artisanat où il faut apprendre un savoir-faire, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de choses. Il y a les machines aussi qu'il faut, parce que la machine, ça se dérègle constamment. Et là, en fait, le tuilage, il a duré 3 ans. Donc ça a été quelque chose... mes prédécesseurs ont été quand même à la hauteur. Puis je pense que c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, nous, c'est notre bébé qu'on te donne. À toi de le faire grandir. Donc ça, c'était Oui, c'était quelque chose d'assez important.
Alors, quelques chiffres clés. Hein. Vous êtes environ 5 salariés, 400 000 euros de chiffre d'affaires, plusieurs clients à l'international, Belgique, Allemagne, Suisse, Japon. Des volontés d'extension, j'imagine.
Mais alors, oui, tout ce que je fais à l'international, en fait, c'est, je dirais, de l'opportunisme. En fait, ce sont des gens qui viennent me voir en me disant, écoutez, je voudrais vos produits. À l'heure actuelle, moi, ma volonté première, c'est de me faire connaître et reconnaître en France, et surtout au niveau du luxe, parce que à l'heure actuelle, le savoir-faire que je préserve, je fais du parapluie de couturier comme dans les années avant 90, parce que à l'heure actuelle, il reste encore une dizaine de maisons qui font du parapluie français, et c'est des bonnes maisons. Cependant, ils se concentrent que sur du 8 pièces de tissu. Moi, je peux aller jusqu'à 40 pièces. Je fais de la broderie. Je fais des broderies de 20, 25 000 points. Et puis, ce que j'aime, c'est de faire du parapluie d'exception, tout simplement.
Guillaume Dozinel, pour interroger notre invité du jour.
Comment faites-vous pour les garantir à vie ?
Alors, c'est tout simple. Historiquement, en fait, de l'après-guerre jusqu'aux années 90, il y avait à peu près 100 000 emplois en France, des centaines de sociétés qui faisaient du parapluie, et tout le monde réparait les parapluies. Donc, il y avait les fabricants, les vendeurs de parapluies, mais il y avait aussi les maroquiniers, les cordonniers. Donc, il y avait tout un écosystème. 100 000 emplois, c'est pas rien, en emploi direct, et moi, j'estime à peu près à 20 000 d'emplois indirects. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir dans un parapluie, c'est que 98% de la casse, c'est une baleine, voire deux maxi. Et c'est quand même dommage de mettre à la poubelle un parapluie, alors que c'est tout simple de le réparer, ça prend 5 minutes. Et donc, ce que je fais, ça paraît extraordinaire maintenant, mais avant les années 90, tout le monde le faisait. Donc, en fait, quelque part, j'ai un pied dans la modernité, je suis un patron agile et actif, mais par contre, j'ai gardé quand même ce côté tradition. Et ça, c'est ce qu'on a perdu.
Le parapluie de luxe devient un accessoire de mode. Travaillez-vous avec des créateurs ou des enseignes de luxe ?
Oui. Alors, enseignes de luxe, non. À l'heure actuelle, je travaille avec Julien Fournier, qui est un créateur haute couture. J'ai fait, son défilé, là, le dernier, qui était absolument magnifique, dans la salle Gaveau. C'était début juillet. D'ailleurs, je vous invite à regarder son site. Il y a une magnifique vidéo. Vous verrez les trois ombrelles que j'ai produites pour lui. Après, j'ai fait aussi le parapluie Mary Poppins pour Mary Poppins. C'était le tableau Mary Poppins, mais c'était pour les Miss France, l'élection 2021. Et après, j'ai fait aussi un défilé pour Pierre Balmain. Enfin voilà. Et puis quelques maisons. Voilà. Souvent dans le luxe, c'est des petites quantités, par contre c'est vraiment du beau.
Comment fait-on dans le contexte actuel pour convaincre les clients qu'il est plus vertueux d'acheter des produits français et durables ?
Je crois que c'est dans l'air du temps. À l'heure actuelle, tous les jours, on nous explique que on a des problèmes avec le climat, tout ça. Donc justement, là ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure actuelle, en France, c'est 15 millions de parapluies d'importation qui sont détruits chaque année et 1 milliard sur la planète et qu'on ne peut pas recycler. Donc en fait, justement, c'est une petite goutte, mais en tout cas, je fais ma part.
Quelles sont vos valeurs d'entreprise ?
J'en ai plein. Bon, pour moi, la RSE, c'est quelque chose de super important, mais je suis assez engagé. Mais par contre, je travaille maintenant avec une personne, justement, qui va m'aider à monter en puissance au niveau de la RSE. C'est des petites choses toutes simples, mais quand on recrute quelqu'un, on essaye que ça soit à moins d'une demi-heure de chez nous. On essaye d'être en circuit court. Je travaille aussi avec un établissement pénitentiaire où on sous-traite certaines pièces. Et puis, j'aimerais bien travailler aussi avec des handicapés. Je pense qu'il faut être assez engagé quand on est patron. C'est important.
Vous l'évoquiez, relocaliser des savoir-faire en France qui sont en train de se perdre, c'est compliqué.
Oui, alors, c'est pas qu'ils sont en train de se perdre, c'est qu'ils sont déjà perdus, et ça, c'est assez compliqué. Oui, c'est dommage. En fait, la France a connu, dans les années 90, un suicide industriel où on a délocalisé en masse, et en fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses. Une poignée de parapluies, c'est pas quelque chose de compliqué à faire, sauf que maintenant, on ne sait plus faire. À chaque fois que j'ai un fournisseur qui ferme, c'est une catastrophe parce que il faut retrouver. Et en fait, dans le luxe, en fait, il y a la façon, bien entendu, mais il y a les produits qu'on va utiliser. Et s'ils sont pas nobles, on n'est pas dans le luxe. Donc en fait, là, il y a vraiment des enjeux. Et moi, je suis constamment à la recherche de personnes qui font donc des tissus qui sont nobles. Donc là, à l'heure actuelle, je suis en train d'essayer de réimporter depuis un an et demi du jacquard français, parce qu'avant, c'était en Italie. Je suis en train aussi, donc 100% des montures sont que je fais, mais aussi que tout le monde fait à l'heure actuelle en France, sont d'importation chinoise. Et là, à l'heure actuelle, ça fait 2 ans et demi que je travaille pour réimporter ce savoir-faire. Et c'est assez difficile parce que, alors, on n'est pas sur de la recherche et du développement au sens noble du terme, mais on essaye de retrouver des vieux savoir-faire. Et là, j'ai trouvé un industriel français. Et là, ma monture serait 100% française. Et là, je me suis allié avec 4 de mes confrères en leur expliquant que c'était important de le faire pour l'avenir, tout simplement.
Alors, une petite dernière question un peu plus personnelle, hein, comme la tradition le veut. Je crois que vous vouliez, enfant, être un patron aventurier, comme Richard Branson, patron de Virgin. Je crois que c'est le cas, en fait, non ?
Mais alors, modestement.
Vous faites beaucoup de sport extrême.
Alors, sport extrême, non. J'ai fait beaucoup de voile pendant à peu près une 20aine d'années. J'ai fait pas mal d'alpinisme. Et j'ai fait pas mal de raids aussi en Afrique. Traverser une partie de l'Algérie, traverser le désert algérien. Non, je trouve que c'est passionnant. Et en fait, pour moi, c'est un équilibre. À l'heure actuelle, j'ai mis un peu mes passions de côté parce que j'ai 2 petites filles et ça me prend beaucoup de temps. Dès qu'elles vont être un peu plus grandes, j'aimerais le faire avec elles parce que je trouve que c'est des belles choses, des belles aventures. Et puis, c'est toujours des aventures humaines. Quand on est sur un bateau, quand on est en train de monter une montagne, c'est toujours un groupe. Il y a une synergie. Et c'est quand on monte... Il y a une fois, j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro. On était 13 à monter. Et en fait, il y a eu vraiment une grosse solidarité. Et en fait, on est arrivé les 13 en même temps au sommet. Et ça a été une grande joie parce que s'il y en avait un qui manquait à l'appel, ça aurait été un petit peu dommage, quoi.
Merci beaucoup, voilà. Yves-Charles Boccassini, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à vous, Guillaume. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X, anciennement Twitter et LinkedIn. Et puis, on se retrouve jeudi prochain pour accueillir un nouvel invité. Merci.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec GFIP et Inextinso.